Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer sur les versets 1 à 5 de la sainte sourate Qadr. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر
بسم الله وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة سلام هي حتى مطلع الفجر ورق الله العلي العظيم.
Oui, nous avons fait descendre ceci, la nuit de la détermination. Et qui te dira ce qu'est la nuit de la détermination? La nuit de la détermination est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges, ainsi que l'esprit, par permission de leur Seigneur. Avec chaque commandement, une paix. Cela jusqu'à l'apparition de l'aube.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le vendredi 5 Esfand, 1401 du calendrier iranien, 24 février 2023. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information suivi d'un commentaire politique. Massacre de Naplouse, les Palestiniens condamnent en bloc les exactions d'Israël. Les relations militaires et de défense entre l'Iran et la Russie ne sont contre aucun pays tiers, a annoncé Téhéran. Crash d'un hélicoptère transportant le ministre iranien du sport. Et le massacre de Naplouse, les Palestiniens condamnent en bloc les exactions du régime israélien. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. L'Iran affirme que ses liens militaires et de défense avec la Russie sont basés sur des intérêts mutuels et ne visent pas de pays tiers. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a fait ce commentaire dans une interview à l'agence de presse russe Sputnik. Il a déclaré que Téhéran et Moscou renforçaient leurs relations sur la base de la volonté politique de leurs principaux dirigeants. Nasser Kanani a déclaré « Les relations entre la République islamique d'Iran et la Russie sont fondées sur la volonté politique des dirigeants des deux pays. L'Iran et la Russie ont de grands potentiels à cet effet. La coopération irano-russe dans divers domaines économiques, industriels, commerciaux, énergétiques, de transport et bancaires se développe et les deux parties ont beaucoup de potentiel économique et complémentaire. Le responsable iranien a également réitéré l'appel de l'Iran à une solution politique à la guerre en Ukraine. Il a déclaré que c'est la position de principe de la République islamique d'Iran depuis le début du conflit en février de l'année dernière. Kanani a également déclaré que les pays qui envoie des dizaines de milliards de dollars d'aide militaire à un côté de la guerre, ne veulent pas que le conflit se termine, faisant référence au soutien militaire des États occidentaux à l'Ukraine. Un hélicoptère transportant le ministre iranien du sport s'est écrasé dans le sud du pays, tuant l'un de ses collègues. Le ministre Hamid Sajjadi et 16 autres personnes ont été blessées lorsque l'hélicoptère s'est écrasé lors de son atterrissage dans un stade de la province de Kerman. Selon des témoins oculaires, l'hélicoptère s'est écrasé alors qu'il n'était qu'à quelques mètres du sol. Le ministre et deux autres personnes ont été blessées et seraient dans un état critique. Les responsables disent qu'ils enquêtent actuellement sur la raison de l'accident. Selon le porte-parole de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, les rapports incessants de l'agence nucléaire de l'Organisation des Nations Unies portant de fausses accusations sans fondement contre le programme nucléaire pacifique de l'Iran sont politiquement motivés pour exercer une pression maximale sur la République islamique d'Iran. Dans une interview exclusive avec Press TV, Behrouz Kamalvandi a déclaré que l'Agence internationale de l'énergie atomique, IAEA, publie des rapports confidentiels sur les activités nucléaires de l'Iran avant même que les enquêtes ne soient terminées afin de préparer le terrain pour des fabrications de fausses accusations contre le programme nucléaire pacifique de la République islamique d'Iran. Après la récente inspection de l'usine d'enrichissement de combustible de Fordow en janvier, l'Agence internationale de l'énergie atomique a affirmé que l'Iran avait apporté une modification non déclarée à l'interconnexion entre les deux groupes de machines avancées enrichissant l'uranium jusqu'à 60% de pureté à l'usine. Des milliers de Palestiniens sont descendus dans les rues de la Cisjordanie occupée et de la bande de Gaza, assiégés pour protester contre le raid meurtrier d'Israël sur la ville cisjordanienne de Naplouse. Les rassemblements ont eu lieu à la suite d'un appel antérieur du groupe de résistance palestinien La Fosse aux Lions. Il a exhorté les Palestiniens à descendre dans la rue pour montrer au monde que la résistance est prête à donner une réponse rapide à toute agression israélienne. Ismaïl Haniyeh, qui dirige le bureau politique du mouvement de résistance Hamas, a publié un message louant le rassemblement massif. Il a déclaré que le peuple de la Palestine et le front de la résistance ne permettront à personne d'arrêter le soulèvement anti-israélien en cours à travers la Cisjordanie. Près d'une douzaine de Palestiniens ont été tués et plus d'une centaine blessés lors du raid de mercredi des forces israéliennes sur la ville de Naplouse. Le commentaire politique d'aujourd'hui a été consacré à ce sujet. À l'instar des États-Unis, Bruxelles lève une partie des sanctions contre la Syrie pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire après le tremblement de terre qui a touché le pays. Cet assouplissement sera en vigueur pour une durée de 6 mois. L'Union européenne a annoncé le 23 février l'assouplissement temporaire de ces sanctions contre la Syrie afin de faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire dans ce pays touché par le séisme du 6 février. Les organisations d'aide humanitaire n'auront plus besoin de demander l'autorisation préalable des États membres de l'Union européenne pour envoyer du matériel ou fournir des services aux entités soumises aux sanctions de l'Union européenne, a déclaré le Conseil européen dans un communiqué. Cette mesure d'une durée de 6 mois a été prise compte tenu de la gravité de la crise humanitaire en Syrie, exacerbée par le tremblement de terre, précise le texte. Le séisme d'une magnitude de 7,8 a fait plus de 42 000 morts en Turquie et plus de 3 600 morts en Syrie. L'Union européenne souligne qu'elle est au premier rang des donateurs à la Syrie avec un total de dons de 27,4 milliards d'euros à ce pays et à ses voisins qui accueillent des réfugiés comme la Turquie depuis 2011. des milliers de personnes sont descendues dans les rues de la Cisjordanie et de la bande de Gaza pour condamner les raids sauvages de l'armée israélienne sur la ville de Naplouse, au nord de la Cisjordanie occupée, où au moins 11 Palestiniens ont été tués et des dizaines d'autres blessés. Les Palestiniens ont pris part à des manifestations nocturnes organisées par le groupe Fosse aux Lions, affilié à la résistance. Ils ont condamné à voix haute les abus et les massacres israéliens. Les participants ont brandi des drapeaux nationaux palestiniens et ont aidé à exposer les photos des personnes tuées lors de l'incursion militaire israélienne dans le camp de réfugiés de Jenin, la ville de Naplouse et la partie orientale de la ville de Qods, et ont scandé des slogans en faveur du front de résistance. À moto ou en voiture, les manifestants ont exprimé leur solidarité avec le groupe de la Fosse aux Lions. Ils ont mis le feu à des pneus aux intersections et ont crié « Dieu est le plus grand ». La présence de personnes dans le camp de réfugiés de Shuafat, à l'est de Noblerotz, le camp de réfugiés de Deyché, au sud de Bethléem, Al-Khalil, Ramallah et Naplouse, a été décrite comme extraordinaire. Ismaïl Haniyeh, chef du bureau politique du mouvement de résistance islamique de la Palestine, Hamas, basé à Gaza, a également déclaré dans un communiqué que les Palestiniens ordinaires et les combattants de la résistance ne laisseront personne éteindre le soulèvement collectif en Cisjordanie occupée. Nous saluons tous les Palestiniens qui sont descendus dans les rues tôt vendredi pour transformer l'ensemble des territoires palestiniens en une fosse aux lions, en réponse au massacre de Naplouse, a-t-il martelé. Pendant ce temps, la Ligue arabe a condamné les crimes israéliens contre les Palestiniens et a demandé à la communauté internationale de protéger la nation opprimée de la Palestine. L'organisme a dénoncé les crimes israéliens qualifiés de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre en vertu du droit humanitaire international contre le peuple palestinien et a appelé la communauté internationale à mettre en œuvre les résolutions relatives à la protection des civils palestiniens, en particulier la résolution 904 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle a appelé la communauté internationale à mettre en œuvre les résolutions relatives à la protection des civils palestiniens, en particulier la résolution 904 de 1994 du Conseil de sécurité des Nations Unies, la résolution 605 de 1987 du Conseil de sécurité et la résolution 1020 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la protection de la population civile palestinienne. La Ligue arabe a exhorté les institutions internationales à adopter des mesures de sécurité efficaces pour la protection des Palestiniens et à former un mécanisme pratique et efficace pour mettre en œuvre la résolution de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Elle a également appelé le Conseil de sécurité des Nations Unies à assumer ses responsabilités en matière de défense, de la sécurité et de la paix internationale, à prendre des mesures immédiates et efficaces pour mettre fin à tous les crimes et pratiques israéliens et à l'occupation illégale des territoires palestiniens par Israël. Elle a exhorté la Cour pénale internationale à mener une enquête indépendante et impartiale sur les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis par Israël, notamment le développement des colonies, les exécutions extrajudiciaires de Palestiniens et de déplacements forcés, et a demandé des comptes aux auteurs de ces crimes.
Bonjour à tous, bienvenue ici à Presse TV dans les studios à partir de la capitale de Téhéran en Iran. Alors, aujourd'hui, le sujet de la Palestine, des occupants et du grand silence de l'ONU. Pour ce faire, nous avons donc préparé un reportage et par la suite, nous ferons venir nos invités. Donc, dans un premier temps, je vous propose notre reportage.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies a exprimé sa profonde préoccupation et sa consternation face à l'activité de colonisation d'Israël dans une déclaration édulcorée remplaçant un projet de résolution qui avait condamné la politique israélienne. La déclaration du Conseil de sécurité de l'ONU approuvée lundi 20 février par les 15 membres du Conseil, y compris les États-Unis, a également souligné ce qu'il a appelé l'obligation de l'autorité palestinienne AP de renoncer et de faire face au terrorisme. La mesure symbolique est venue en réponse à une décision du cabinet israélien au début du mois d'autoriser des milliers d'unités de colonisation en Cisjordanie occupée et de légaliser rétroactivement les avant-postes de colonies construits illégalement. La semaine dernière, le Conseil de sécurité semblait prêt à voter sur un projet de résolution appelant à la fin de l'expansion des colonies israéliennes. Mais des informations de plusieurs organes de presse américains et israéliens, citant des sources diplomatiques, ont déclaré que l'autorité palestinienne avait accepté d'abandonner sa poursuite du vote sous la pression du gouvernement américain. Le mouvement de résistance palestinien Hamas a critiqué le Conseil de sécurité de l'ONU pour sa dernière déclaration édulcorée, affirmant que cette décision démontre la faiblesse et la fragilité de l'organisme mondial vis-à-vis des crimes et des politiques illégales du régime sioniste. Le Hamas a déclaré lundi que la déclaration du Conseil de sécurité montre que l'organe s'est soustrait aux responsabilités qui lui sont dévolues en vertu des conventions et principes internationaux. Le mouvement a ensuite appelé la communauté internationale, le Conseil de sécurité en particulier, à adopter des mesures dissuasives et dures contre le régime occupant de Tel Aviv et ses politiques d'expansion des colonies, et ne se contente pas d'exprimer des inquiétudes et des condamnations. Israël a occupé la Cisjordanie, y compris Rodez et Gaza, en 1967. Depuis lors, il a construit des colonies abritant des centaines de milliers d'Israéliens sur les terres occupées qui réclament les Palestiniens dans le cadre de leur futur État. La déclaration de lundi du Conseil de sécurité a appelé toutes les parties à observer le calme et la retenue et à s'abstenir de toute action provocatrice, incitation et rhétorique incendiaire. Il a également appelé au plein respect du droit international humanitaire, y compris la protection de la population civile. Israël a rejeté la déclaration comme unilatérale, critiquant spécifiquement Washington pour l'avoir soutenue. Cette déclaration n'aurait jamais dû être faite et les États-Unis n'auraient jamais dû s'y joindre, a déclaré le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu.
Nous revoilà donc sur les plateaux. Donc nous avons fait venir d'abord nos invités. Donc notre invité étant Monsieur Eli Hachem, juriste international. Bonjour Monsieur Hachem.
Bonjour, c'est Eli Hachem.
Ah, Eli Hachem, excusez-moi. Alors bonjour Madame, notre deuxième invité étant Madame Aïssar Midani. Bonjour Madame Midani, toujours un plaisir de vous avoir également sur nos plateaux en tant qu'experte, notamment du Moyen-Orient.
Bonjour à vous, bonjour à, et merci pour l'invitation. Bonjour à Monsieur Hachem et à tous les téléspectateurs.
Alors, ces derniers jours ont été extrêmement importants pour la Palestine. Enfin, c'est ce qu'on croyait, parce que l'ONU était censée prendre une résolution qui se montrait extrêmement optimiste pour la cause palestinienne. Et finalement, eh bien, c'est un caillou qui est tombé dans l'eau de la mare. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Midani? Est-ce que vous pensez que voilà, l'ONU n'a fait que donner une fausse résolution concernant la situation palestinienne, demandant à ce que les Palestiniens ne suragissent pas? Pourtant, face à des occupants qui agissent de manière contre l'humanité, contre les droits de l'homme. Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur cette résolution de l'ONU?
En fait, d'abord, l'ONU, depuis le temps où les Israéliens commettent des crimes absolument génocidaires, des crimes contre l'humanité, des crimes contre le droit humain en Palestine, n'a jamais fait de déclaration à part du bout des lèvres. Et ce sont des déclarations de principe qui ne sont suivies d'aucun effet. Alors, on attend aujourd'hui, avec la montée des violences israéliennes contre le peuple palestinien, aussi bien dans les prisons comme violation totale d'ailleurs des droits des détenus, contre les habitants de toute la Palestine, en fait, non seulement au niveau des violations de domicile, au niveau des arrestations, au niveau des tueries qui sont vraiment des tueries, des exécutions sommaires des jeunes. N'importe où d'ailleurs, quand ils s'opposent à cette violation de domicile, de violation de quartier, violation de leur propre intimité chez eux et donc la maltraitance de toutes les familles. Quand il y a aussi les Israéliens s'attaquent aux agricultures, à la culture, à tout ce qui fait aussi, qui permet aux Palestiniens de vivre, donc toutes les sources de vie. Il faut quand même rappeler qu'ils s'attaquent aux pêcheurs, ils s'attaquent aux... ils interdisent, même à Gaza, alors que ce sont des côtes palestiniennes, ils leur interdisent de pêcher, ils détruisent les bateaux des pêcheurs. Tout ceci, ça va dans le sens d'un génocide à petit feu qui se poursuit avec des massacres de temps en temps assez violents et assez incroyables. Et l'ONU se contente de petites déclarations du bout des lèvres, dans laquelle d'ailleurs elle fait tout de suite au fait que les Palestiniens commettent des actes terroristes. Comme si s'opposer à la violation de son domicile et la destruction de ses cultures et la destruction de ses champs et la tuerie des enfants. Il faut quand même rappeler que dans les geôles israéliennes, il y a des femmes et des enfants qui sont maltraités et on arrête les enfants de 13 ans, de 14 ans, même des jeunes enfants de 7 ans. L'objectif, c'est de créer une peur systématique et le terrorisme de l'État israélien n'a fait l'objet d'aucune déclaration de l'ONU et d'aucune dénonciation.
Merci Madame Midani.
Le peuple qui se défend est passible.
On va revenir sur la question des prisons. Notre deuxième invitant étant un juriste international. Bonjour, Monsieur Hatem. Encore une fois, désolé pour mon erreur de nom. Alors, vous-même, quand Madame Midani et quand l'actualité parle des prisons israéliennes et qu'on dit que les droits de l'homme ne sont pas respectés, est-ce que vous pouvez nous dire les différents actes à l'encontre donc des prisonniers palestiniens, comme l'a dit Mme Midani, de différents âges, qu'est-ce qu'ils doivent supporter face à la prison israélienne quand ils se font arrêter, qu'on voit les images sur Twitter, sur les réseaux sociaux et qu'on voit ces arrestations? Ils font face à quoi dans ces prisons?
Bien, merci pour votre invitation. Mes salutations à Mme Midani. Alors, il faut savoir une chose, on ne peut pas parler de prisonnier parce que un prisonnier, c'est quelqu'un qui a commis un acte délictuel à l'encontre d'une législation. Or, dans le cas de la Palestine, nous avons un pays, un État, la Palestine, qui est occupé par une entité qui est complètement artificielle, c'est l'entité sioniste, qui a établi un État sur un territoire, sur un pays qui existe déjà et qui exerce sur la population, sur les autochtones, une politique, comme l'a très bien souligné Madame Midani, elle a parlé d'un génocide progressif, moi je dirais une politique d'extermination progressive et lente. C'est ce qu'ont fait les nazis avec les communautés juives en Europe. Les Israéliens sont en train de faire la même chose avec les autochtones. Alors, il y a des arrestations complètement illégales de ces mouvements de résistance nationale qui sont en train de travailler pour la libération de leur pays. Et il faut le rappeler, c'est dans les normes et les principes du droit international, le non-recours à la violence, il y a une exception à ce principe qui est celui de l'usage de la force dans l'objectif de la libération nationale. En France, les Français se sont opposés aux nazis avec un mouvement de résistance nationale, mais là, pour la terminologie, pour les nazis, le mouvement de résistance nationale français était considéré comme étant un mouvement terroriste. Mais pour les résistants français et pour la France libre, c'était considéré comme un mouvement de résistance nationale. Aujourd'hui, nous vivons dans le mensonge international, dans le déni. Pourquoi ? Parce qu'il y a une emprise, une dictature au niveau international qui s'impose par ce monde unipolaire où les Américains et leurs alliés ou leurs vassaux donc dominent le monde depuis surtout la fin de la guerre en ex-Yougoslavie et la conférence de Dayton qui a placé les États-Unis comme le gendarme du monde. Et c'est là, il y a tous ces mensonges, toute cette terminologie, on parle de prisonniers, ce ne sont pas des prisonniers, ce sont des détenus illégaux qui sont des résistants et qui sont pris en otage. Donc c'est une prise d'otage. Ce sont des détenus d'une manière illégale et qui subissent des violations de leurs droits élémentaires avec un silence, un mensonge, un déni international parce que tout le monde a peur de la superpuissance américaine et derrière laquelle, comme nous le savons, la politique américaine en fait est dirigée par des lobbies. En ce qui concerne la politique étrangère, elle est essentiellement déterminée par le lobby sioniste, par le lobby pro-Israël et par l'AIPAC qui détermine les prises de position américaines au niveau international. Alors vous me dites l'ONU, je ne vais pas reprendre l'expression du général de Gaulle le machin, mais je prendrai une autre expression qui était celle de l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Boutros Ghali, qui était le dernier, je dirais, secrétaire général des Nations Unies, qui a été empêché de faire son travail à cause de cette hégémonie américaine qui ne veut plus faire appliquer le droit et les principes élémentaires du droit international public, mais qui exerce une dictature sur le monde. Eh bien, l'ONU est devenue en quelque sorte, ou les fonctionnaires de l'ONU, je les appellerai les eunuques, et qui sont complètement dépourvus de pouvoir, à cause de ce système unipolaire, de ce système qui est aussi instrumentalisé par les instruments, je dirais, de cette globalisation, par les médias, par les réseaux sociaux, les GAFA, et qui sont en fait entre les mains également donc des États-Unis. Je parle de Facebook, je parle de YouTube, et d'ailleurs vous êtes interdit au nom de la liberté d'expression Presse TV d'émettre sur YouTube, parce que vous ne correspondez pas au schéma imposé par cette dictature internationale.
Merci, donc, monsieur Attam.
Je termine sur votre question. Aujourd'hui, il y a une situation inique, et il y a des gens dont les droits sont violés tous les jours, avec un silence de ce monde qui est tout petit, ce qu'on appelle la société internationale. C'est complètement faux, parce que ce sont les États-Unis et quelques-uns de leurs alliés. Or, aujourd'hui, nous avons un espoir où nous assistons à l'émergence d'un nouveau monde libre, grâce d'ailleurs à la Russie, à laquelle s'associe donc l'Amérique latine, l'Afrique, l'Asie, le Moyen-Orient, la Chine, l'Inde, le Pakistan et l'Iran, pour créer ce nouveau monde libre. Et c'est grâce à ce nouveau monde libre-là que nous allons d'ailleurs déclarer bientôt dans le 14 mars à Moscou, nous allons pouvoir rétablir le droit international et finir de cette situation hégémonique.
Merci, monsieur Attam. Alors, vous avez notamment parlé donc des emprisonnements illégaux, que ce soit madame Midani ou que ce soit vous, monsieur Attam. Il y a également le fait, une chose importante, c'est que Israël, donc cette entité sioniste, qui est le résultat finalement d'une politique européenne et occidentale, utilise les armes qui ne leur viennent pas de ce pays, ils leur viennent des États-Unis et notamment de l'Europe, donc d'une certaine manière, ils sont autant coupables que l'entité sioniste des tueries des enfants palestiniens, des adultes palestiniens qui meurent tous les jours. On a vraiment, je veux dire, maintenant rien n'est filtré, hein. On a vraiment des images extrêmement importantes sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, où c'est de manière continuelle, chaque jour on voit de nouveaux visages, des nouveaux larmes, des nouvelles maisons détruites. Encore ce matin, une nouvelle zone de la Palestine était détruite. Madame Midani, qu'est-ce que vous avez envie de dire sur la responsabilité, et je ne parle pas seulement légale, mais matérielle, et qui ne sont pas forcément que par le biais de lobby, donc de matériel venant d'Europe et des États-Unis concernant donc la situation palestinienne?
La responsabilité. Alors, ils sont d'abord complices. Je voudrais rappeler quand même un petit peu d'histoire. Israël a été créé par ses lobbies, par ses pays, par l'Angleterre, la France, les États-Unis. Elle a été créée sur le peuple palestinien, je peux dire, et sur la terre de Palestine, qui a été usurpée depuis par la promesse Balfour d'abord, et puis après par le mandat britannique qui a donné effectivement ces terres, aux sionistes, au mouvement sioniste dirigé par Herzl à l'époque, hein, et qui est le plus grand idéologue du sionisme. Ça, c'est en fait, depuis ce moment-là, il y a effectivement usurpation pas seulement du droit international, mais des droits des peuples, hein, parce que la Palestine, les Palestiniens sont un peuple qui ont tout à fait le droit, selon le droit international, déclaré aujourd'hui d'ailleurs, et de l'ONU aussi, de la charte de l'ONU, le droit de disposer d'eux-mêmes, et de choisir leurs dirigeants et d'être indépendants, etc. Or, cette occupation, cette colonisation forcée, en fait, de la Palestine, elle continue à être soutenue par le monde occidental, dirigé par les États-Unis et tous les pays de l'OTAN, qu'elle dirige d'ailleurs aussi de cette manière, et qui continue à violer tous les droits des peuples et tous les droits nationaux, internationaux, et tous les droits de l'homme, et même les droits pendant la guerre, en fait.
Merci, Madame Midani, parce qu'on arrive à la fin du débat.
Fou. Excusez-moi, je voudrais juste une petite phrase. Il faut dire seulement, pas seulement qu'ils sont alimentés par les armes, mais surtout tous les vétos qui sont présentés alors aux Nations Unies par les Américains, qui empêchent toutes les décisions qui sont prises par une grande majorité des pays contre l'État d'Israël, qui est un État fantoche et qui est un État usurpateur. Tout ça, c'est bloqué par les vétos des États-Unis et des pays de l'OTAN.
Merci, Mme Midani. Alors, parce que chacun d'entre vous, vous avez vraiment des arguments à présenter, donc j'essaie de relativiser le temps et le donner à chacun. J'ai envie de demander à M. Eli Hatem, donc, la question qui se pose, c'est qu'en fait, on va dire que cette résolution, c'était un peu la dernière chance, on peut dire, de l'ONU de prendre une résolution plus forte que d'habitude, de dire non, notre organisation, elle existe encore et elle a toujours sa puissance internationale, si on en avait eu avant. Là, c'était du sarcasme de ma part. Est-ce qu'on peut dire qu'elle a manqué sa dernière chance pour montrer aux peuples du monde, notamment aux différents continents qui ne sont pas entendus, de dire je vous entends et on essaye d'agir en conséquence?
Mais madame, elle n'existe plus. L'ONU n'existe plus. L'ONU, c'est une ancienne organisation comme la Société des Nations qui avait perdu toute sa légitimité avec la guerre. Les Nations Unies sont sous l'hégémonie américaine. Leur siège est à New York. Ils reçoivent leur directive et la pression de Washington. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Boutros-Ghali, qui avait dit il voulait de moi un secrétaire et je me suis érigé en général. Et à l'époque, Madame Madeleine Albright a tout fait pour éviter sa réélection parce qu'il tentait d'établir le droit, l'équité internationale et véritablement travailler pour la paix et la sécurité internationale. Aujourd'hui, ce machin, c'est ce que disait le général de Gaulle, est entre les mains des Américains et de l'OTAN, et qu'il utilise pour maquiller certaines actions. Aujourd'hui, il n'y a plus de droit international public, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai démissionné des universités où j'enseignais cette matière, parce que je ne trouvais plus d'arguments pour répondre aux questions de mes étudiants, parce qu'il n'y a, d'une part, ces principes de droit international public ne sont jamais respectés, et leur violation également ne sont pas sanctionnés. Pourquoi? Parce que cet organe, les Nations Unies, a perdu son poids, a perdu de son existence. Aujourd'hui, qu'est-ce qui distribue les sanctions? Eh bien, ce sont les États-Unis, au gré, en fait, de Washington, et ils distribuent ça à tous ceux qui ne respectent pas la politique et les intérêts américains. Je vous donne un exemple, la Turquie, qui depuis un certain temps avait menacé la sécurité de l'Est de la Méditerranée, eh bien, elle n'a pas été inquiétée parce qu'elle était l'alliée donc, des États-Unis. Et c'est ce qui se passe partout, et comme l'a très bien souligné Mme Midani, c'est qu'il y a aussi une situation unique dans cette organisation mondiale, c'est le Conseil de sécurité et le droit de veto, qui est toujours aujourd'hui utilisé par les États-Unis pour défendre leur allié principal dans la région, et puis même, je dirais, dans le monde, qui est cette entité artificielle, l'entité sioniste. Et il faut peut-être rappeler une chose, quand vous avez posé la question tout à l'heure à Mme Midani à propos donc, de l'Occident, etc., cette entité, elle n'est pas fondée simplement par le mouvement sioniste qui a été créé par Herzl, mais même avant, je dirais, par le judaïsme politique, par les amants de Sion, et Herzl est venu continuer cela, et elle a été rejetée, cette théorie, par la plus grande majorité des communautés juives. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle que le premier le congrès sioniste mondial s'est tenu à Bâle et non pas à Zurich. Pourquoi? Parce qu'il y avait des manifestations de l'ensemble des communautés juives contre cette organisation qui était l'OSM, qui était présidée par Theodor Herzl. Et il y a eu un profit, ils ont profité, le sionisme a profité de ce qui s'est passé lors de la Seconde Guerre mondiale pour responsabiliser en quelque sorte des pays occidentaux qui ont, et ce qui s'est passé lors de la Seconde Guerre mondiale avec le nazisme d'ailleurs, pour essayer de les convaincre de reconnaître cette entité artificielle d'une manière inique sur ce territoire qui est le territoire palestinien. Aujourd'hui, on reproche à la Russie d'intervenir en Ukraine pour aider les russophones et les Russes qui sont à l'intérieur et protéger sa sécurité, mais aucun reproche, aucune sanction à l'encontre de cette entité qui pratique une véritable extermination progressive d'un peuple sur son territoire. Vous avez parlé de 1967, il faut peut-être rappeler 1949, quand il y a eu quand même le génocide, le massacre et le premier exode de ces Palestiniens qui ont été éparpillés et dans le monde arabe. C'est ça, en fait, qui est le grand crime. Où est aujourd'hui l'ONU? Où sont ces principes de droit international public? Où est l'application du droit international? Ça n'existe plus. C'est la raison pour laquelle il faut aujourd'hui, le plus tôt possible, procéder à la création d'une nouvelle organisation libre, indépendante de toutes les puissances politiques, qui puisse faire établir le droit international public et faire respecter donc sanctionner toute violation donc de ces principes d'une manière indépendante et équitable.
Merci. Ce sont sur ces derniers propos que notre donc débat finit. J'ai essayé donc de diviser le temps de manière correcte entre nos deux experts qui aujourd'hui nous ont permis d'avoir une idée bien précise de ce qui s'est passé et de ce qui se passe en Palestine. Merci à nos experts. Moi, c'est ici que je vous dis au revoir, ici à partir de la capitale iranienne Téhéran, en espérant que notre débat vous fournit toujours des informations supplémentaires par rapport au mainstream. Je vous propose une prochaine fois pour un autre débat et pour un autre sujet. À très bientôt. Au revoir.
Parole d'experts.
Les forces israéliennes ont lancé un raid contre Naplouse le mercredi 22 février dans la matinée, qui a fait au moins 11 morts et 102 blessés côté palestinien, dont beaucoup se trouvent dans un état critique. Les affrontements sanglants de ce mercredi ont éclaté après que les forces israéliennes ont pris d'assaut Naplouse avec des dizaines de véhicules blindés et bloqué toutes les entrées de la ville. Avec Imadeddin Amrouni, expert des questions politiques, nous avons analysé la situation.
On a déjà évoqué le sujet il y a quelques jours en disant que l'entité sioniste va continuer ses intrusions, ses massacres contre la population palestinienne. Parce qu'il y a une crise majeure politique à l'intérieur même de l'entité sioniste. Et donc, il faut qu'il montre sa force. Et contre qui? Contre les civils palestiniens. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, malheureusement, il y a 11 martyrs et il y a une centaine de blessés. Mais la résistance, elle a répondu, elle a bombardé donc, l'entité sioniste. Et ça continue, et ça va continuer dans ce sens-là, tant que l'entité sioniste a les mains libres à massacrer, à tuer des civils palestiniens, malheureusement. Comme je viens de le préciser, le premier objectif, c'est envoyer des messages à l'intérieur de la société de l'entité sioniste. Donc, on approche une guerre civile. Il faut savoir que la plupart, la grande majorité de la société de l'entité sioniste est armée. Et donc, on risque d'avoir des scènes de guerre civile entre sionistes à l'intérieur même de la Palestine occupée. Donc le premier message, c'est montrer, c'est-à-dire que la force de Sahel, la force de l'armée de l'entité sioniste, face au vrai, par rapport à l'entité sioniste, bien sûr, le vrai ennemi, c'est-à-dire les Palestiniens. Donc D'abord, c'est un message à l'intérieur même de l'entité sioniste. Et deuxièmement, c'est un message aussi pour l'axe de la résistance. Donc, il y a une préparation quelque part d'une guerre, alors que ce soit contre le Liban ou encore aller bombarder plus la Syrie, mais on est dans un environnement, dans un optique de guerre que peut mener l'entité sioniste, que ce soit au Liban ou en Palestine ou en Syrie. Ben, tant que d'abord que les peuples arabes et les peuples musulmans ne réagissent pas comme il faut, ben, l'entité sioniste, elle continuera. Ça fait 75 ans qu'elle est là. Et donc, elle continuera à bombarder, pas simplement tuer les Palestiniens, mais tuer les Syriens, les Libanais, et peut-être même plus, parce qu'on parle même d'une attaque surprise par l'entité sioniste sur des objectifs à l'intérieur même de l'Iran. Donc, voilà. On est dans une période très très fragile, très dense. La stratégie américaine n'est pas aussi claire aujourd'hui, que ce soit sur le dossier ukrainien ou sur le dossier palestinien. Et donc on attend à des affrontements encore plus durs à l'intérieur même de la Palestine occupée. Tout à fait, c'est-à-dire on est au début, on est qu'au début, c'est-à-dire que je viens de le dire, d'après beaucoup des observateurs et des experts, on attend peut-être une invasion encore vers le Liban ou des bombardements intenses sur la Syrie. Donc l'entité sioniste, il est en crise politique grave et grave ici même à l'intérieur, donc il ne peut que créer de la désordre en dehors de ses frontières si... frontières existent, bien sûr. Exactement, c'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est face à l'avenir de l'entité sioniste. C'est des anciens hommes politiques israéliens qui sont en train de dire si on reste comme ça, on va vers la guerre civile. Donc, c'est une crise majeure. Depuis 40 ans, l'entité sioniste n'a pas eu cette crise. On est face à l'extrême de l'extrême droite sioniste qui met le désordre dans la politique intérieure israélienne. Il y a une division entre droite et gauche, il y a un problème économique, il y a un problème social, il y a un problème sécuritaire, parce qu'il faut rappeler que la résistance des jeunes palestiniens n'a jamais cessé depuis 2 ans. Donc la nouvelle forme de la résistance palestinienne a mis le cabinet israélien dans le panique. Je pense que la riposte de la résistance palestinienne, elle a commencé hier. Et il y a des personnes qui essayent d'influencer, si vous voulez, et de demander à la résistance palestinienne de ne pas répondre. Mais comme je viens de le souligner, aujourd'hui, on est dans une phase très sensible et très critique. Et donc tout le monde attend, ou bien on va vers des négociations, ou bien on va vers une guerre majeure régionale. Donc ce n'est pas simplement sur le plan entre la Palestine occupée et l'entité sioniste, c'est au-delà, aujourd'hui, est-ce que devant la crise majeure politique que vit l'entité sioniste, est-ce que la décision, c'est d'aller créer une guerre au-delà des frontières israéliennes, c'est-à-dire avec le Liban ou avec la Syrie.
En raison de sa belle et généreuse nature, de ses cascades, ses forêts et de sa proximité avec Téhéran, est très visité. Riz, céréales, fruits, coton, thé, tabac, canne à sucre et soie figurent parmi les produits naturels cultivés du Mazandaran.
voisin d'Aran très présent dans la mythologie et la littérature iranienne et trouve naturellement une place de choix dans le Shahnameh, épopée écrite par le poète Ferdowsi il y a plus d'un millénaire. Et le village de Yush, où naquit le poète iranien contemporain Nima Yushic. Des conditions climatiques favorables, de magnifiques paysages et la proximité de Téhéran ont fait le Mazandaran l'une des principales régions touristiques d'Iran. Le Mazandaran est appelé le paradis perdu par les amoureux de la nature.